Cube Radio.
Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Mardi, on va partager avec vous ces deux heures à venir. Bonjour Carl.
Bonjour Mario.
Et soirée difficile pour le Canadien hier.
Ça s'est passé vite, hein? Le match, la rondelle circulait très vite pour les Golden Knights.
En fait, jusqu'au premier but des Knights, le Canadien était totalement dans le coup, même jouait un bon match.
Après, le premier but aussi, ça tenait, mais ça a commencé
à glisser, ouais. Mais là, Dominique Ducharme a dit que la foule avait eu de l'impact à Las Vegas, puis qu'il espérait qu'il allait avoir une foule aussi énergique à Montréal.
Est-ce qu'on aura une décision bientôt?
Est-ce qu'on pourrait l'avoir d'ici la fin de l'après-midi durant l'émission? Je pense que c'est pas impossible. Il y a une rumeur circule que la santé publique... Mais si c'est pas aujourd'hui, c'est demain matin. Il faut donner une décision. Si on rentre des gens dans le centre
Bell,
il faut avoir le processus de leur avoir un billet.
Leur laisser le temps de casser le cochon pour acheter les billets,
Voilà. On va peut-être avoir à vous présenter ça en cours d'émission. Et pour tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
C'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario.
Bonjour.
J'avais la ministre Mélanie Joly en entrevue là, il y a quelques minutes. Qu'est-ce que tu penses de son projet de loi? Évidemment, c'est comme la chronique d'un projet de loi là, annoncé. Ça fait des mois qu'on en parle. Mais n'empêche, le gouvernement libéral, fédéral de Justin Trudeau dépose un projet de loi pour non seulement défendre et promouvoir le français, reconnaît le français comme la langue officielle du Québec. T'en dis quoi, Mario?
Bien, tu le présentes bien, Paul. Si on le voit en absolu, puis on écoute, par exemple, les commentaires du blog, puis tout ça, on va toujours dire, voici l'idéal, ce serait que le fédéral fasse ceci. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas dans un monde idéal, puis il faut regarder un projet de loi, il faut regarder une action politique dans son continuum, dans son historique, d'où est-ce qu'on vient. Et quand on fait cet exercice-là, il n'y a pas de doute que la ministre Mélanie Joly, elle n'est pas la seule. Il y a d'autres collègues influents du Québec qui ont joué un rôle aussi. Mais on a amené le Parti libéral là où il n'a jamais été dans le passé. On l'a amené sur le terrain vraiment de la reconnaissance du français. Parce que traditionnellement, le Parti libéral était le parti des minorités, mais il traitait la minorité anglophone du Québec comme les minorités francophones hors Québec. Alors que la situation est radicalement différente. La minorité anglophone du Québec, c'est-à-dire fait partie d'une majorité sur le continent. Là. Il ouvre la télé, il y a plus de postes en anglais qu'en français. Tu comprends? La musique, les films, la vie en général. Et de fait, même à Montréal, tu peux vivre à Montréal. Là. Il y en a un paquet de gens qui vivent à Montréal sans jamais utiliser un mot de français, sans jamais connaître le français, sans jamais en parler. Donc, là, il y a une reconnaissance du Parti libéral d'une nouvelle réalité, de dire le français est une langue plus fragile et pour qu'il y ait une égalité dans les faits, une égalité réelle, mais il va falloir protéger davantage le français. Une reconnaissance aussi du français comme langue officielle du Québec. Donc, pour moi, là, c'est une avancée importante qui ne contredit pas ce que fait le gouvernement du Québec. C'est un peu complémentaire à ce que fait le gouvernement du Québec. Il y a une petite pomme de discorde. On va voir comment ça négocie entre Québec et Ottawa. C'est la question des entreprises à charte fédérale. Les banques, les entreprises du secteur des transports, etc., que des télécommunications. Ce que Québec souhaitait, c'est que ces entreprises soient soumises vraiment à la loi québécoise. Donc, on les soumette à la juridiction, au fond, de la charte de la langue française. Alors là, ce que la ministre fait, crée une espèce de choix où ces entreprises-là, et je pense que la plupart vont vouloir se soumettre aux juridictions fédérales, mais on dit que ça va être l'équivalent. Ils vont devoir quand même respecter le droit de travailler en français sur le territoire québécois, donc on va avoir une espèce d'équivalent. Mais par exemple, si la charte de la langue française était modifiée, mettons que dans 10 ans, le futur gouvernement du Québec modifie la charte de la langue française, mais là, s'ils sont pas soumis à cette juridiction-là, ils sont toujours sur la loi fédérale. Dans le concret de l'ensemble des enjeux de défense du français, c'est pas si énorme, mais c'est quand même, à mon avis, peut-être petite source d'accrochage.
Puis l'autre question, évidemment, c'est un projet de loi qui est déposé en fin de session avec toutes ces rumeurs d'élections. Et puis bon, tu sais, ça va mourir au feuilleton, hein, éventuellement, s'il y a un scrutin. Mais là, d'ailleurs, le Bloc québécois souligne que c'est un geste essentiellement de relations publiques. Mais là, Mario, je le dis, j'ai gardé, je vais conserver précieusement l'enregistrement. La ministre Joly jure que son projet de loi, si jamais il y avait élection, donc le même projet de loi avec le même contenu, serait redéposé, là, si jamais les libéraux reprenaient le pouvoir. Donc, il semble, en tout cas, déterminé à changer les choses.
Je partage pas l'analyse du Bloc québécois. Là. Un simple geste de relations publiques, là, c'est banaliser le geste. Donc, il y a beaucoup de travail derrière ça. Là. Si Mélanie Joly a pu convaincre ses collègues, les gens du Galles, dans un caucus, il y a des gens là, de tout le Canada. Il y a un travail qui a été fait préalable. Là, il faut quand même le noter. Deux, est-ce que c'est un geste politique? Oui, mais... c'est la politique. Ils sont au gouvernement. Donc, effectivement, il y a un aspect politique à dire, ben voici ce que serait un peu notre programme électoral, puis on le formule, on le rédige sous forme d'un projet de loi qu'on dépose au Parlement, ce qui en fait un engagement encore plus formel. Alors oui, il y a une partie du jeu de politique là-dedans, là, puis bon, on verra ce qu'on va dire les conservateurs, ce qu'on va dire tous les autres partis de ça maintenant et en campagne électorale, mais c'est tout ça la jeu de politique, les électeurs sont à même de comparer. Mais c'est plus qu'une opération de relations publiques, là. C'est une opération politique. On se comprend que dans cette dimension politique, il y a fort à parier qu'une élection va être déclenchée avant l'adoption du projet de loi, mais là, c'est là que il faudra mesurer la fermeté de l'engagement. Là, tu me dis qu'en entrevue, Mélanie Joly a été très, très ferme dans son engagement de dire si on est réélu, on revient avec le même projet de loi. Mais c'est le genre de promesse que je pense que les électeurs voudront entendre en campagne électorale. C'est le genre de sujet où M. Trudeau va être appelé à, comme dit, dans un débat des chefs, là, à prêter serment la main sur son honneur. Là.
Et je vais quand même conserver l'enregistrement de l'entrevue, juste au cas où. Juste au cas où. En terminant, en parlant de jeu de politique, le Bloc laisse pas sa place avec sa motion qui sera mise aux voix demain. Donc ça veut dire que tous les députés, la dernière fois, c'est Wilson Rabel, la députée indépendante maintenant, l'ex-libérale, qui s'est objectée au dépôt de la motion. Maintenant, là, il y a un vote qui sera appelé. Ce sera intéressant à voir parce que chaque député à la Chambre des communes sera appelé à dire oui ou non à ce que le Québec est une nation francophone, française.
Ouais. Oui, c'est un test important. On a eu l'impression aujourd'hui dans les discours que du côté conservateur, il y a peut-être moins de désunion qu'on pensait là-dessus, qu'on aurait peut-être essayé de rapailler tout ça, de ramener tout le monde avec différentes explications là, à voter en faveur de la motion. Du côté libéral, il y a au moins un député de l'Ouest de Montréal qui n'a pas l'air aimé du tout, le député Housefather, là, qui est un ancien d'Alliance Québec, là, qui n'aimait pas du tout visiblement la motion, qui aurait bien voulu l'amender.
Oui. Et puis, d'ailleurs, tout indique qu'il a voté contre, alors que son parti, et même le premier ministre, a dit qu'il appuyait la motion du Bloc québécois. Donc, ça sera intéressant. Là, en principe, le vote, Mario, aura lieu,
Il y a le Parti vert là, qui était sorti. Parce que, c'était resté flou. Là, quand Mme Wilson-Raybould, comme ça prenait l'unanimité, quand Mme Wilson-Raybould avait dit non, mais là, les autres avaient pu circuler dans le fond de leur fauteuil puis dire, ah ben regarde, le nom a été donné, il n'y a plus d'unanimité. Ouais. Mais finalement, on a compris que le Parti vert, eux, ils sont vraiment carrément contre la motion. Le Parti vert, pour ce qui en reste, parce que le parti est en train de se liquéfier complètement. Là,
hein. Il est en train d'imploser, hein, c'est ça. Il y a une procédure en destitution de la nouvelle chef là, qui est en cours. Il y a une députée qui a claqué la porte pour joindre les libéraux. Donc, ça ne va pas du tout là, pour les Verts en ce moment. Bon, parfait, Mario, je te laisse retourner à ton émission. On te retrouve bien sûr, au TVA Nouvelles. Maintenant,
Alors, Carl, dans les nouvelles, ben, le bilan, on va finir par être dans les deux chiffres parce que là, on est dans les bas trois chiffres.
105 cas de COVID-19 qui ont été signalés au Québec aujourd'hui. On était à 123 hier, donc légère diminution encore. 6 décès aujourd'hui contre un seul hier, cependant, mais tout de même, cette tendance à la baisse se confirme. 26 cas dans la région de Montréal, 19 Montérégie, c'est là qu'il y en a le plus. Le message du ministre de la Santé...
Il y a de plus en plus de zéro dans les régions, régions sans cas.
Et le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tout de même lancé un message aux jeunes parce qu'il y a 178 000 Québécois âgés de 18 à 34 ans qui n'ont toujours pas reçu une première dose du vaccin.
Ouais. Et moi, j'ai deux observations là-dessus. La première, c'est que je trouve que là, on est vraiment dans les deuxièmes doses, puis je comprends que le gouvernement est interpellé. Là. Je suis le premier. Moi, aujourd'hui, c'est ma journée 50 ans et plus, puis AstraZeneca.
Oui, t'es prêt,
il a fait une annonce AstraZeneca, puis tout à l'heure, je suis allé sur le site Internet, puis ça marchait pas encore, puis on est là-dedans. Mais ceci dit, je pense qu'on a un petit peu oublié l'importance des premières doses là, dans l'enthousiasme de dire tout le monde, on veut régler ça, parce qu'il y a tout un côté, mettons, moi, dans ma personnalité, je vais pouvoir cocher ça. Bon, mais vaccin, ouais, vaccin check. Là,
et on c'est réglé, on passe à d'autres choses.
On passe à d'autres choses.
Ben oui.
Mais il reste que, pour moi, ça devient un gros problème. Et j'ai des sources qui me disent même que dans le milieu collégial, on commence à s'inquiéter parce que la santé publique est très sérieuse. S'il n'y a pas 75 % des jeunes de 18 à 29 ans qui sont vaccinés, il n'y aura pas de reprise des cégeps en présentiel. Et le cégep à distance, ça a été pas bon du tout. Ça a été très difficile. Et là, on se dit, dans ce groupe d'âge-là, on est à 65 %, on est à 10 % de l'objectif. Sauf que ça progresse plus. Alors moi, je pense que le gouvernement du Québec, là, oui, aujourd'hui, okay, tout le monde a sa réponse là, pour la deuxième dose. Les Pfizer, ouais, c'est clair, le tableau est clair, les dates sont là, le site Clic Santé est clair. Il y a des réponses maintenant pour Moderna, AstraZeneca. Mais à mon avis, il faut que le gouvernement revienne à une stratégie pour encourager les jeunes à aller chercher leur première dose. Mon autre observation sur ça, c'est que les... toute la question des jeunes et du vaccin, il y a une apathie. Parce que, on a regardé, le gouvernement a regardé un peu, c'est qui le profil des gens qui ne sont pas vaccinés. Puis souvent, on pense à des gens qui sont vraiment le complotiste, ouais, anti-vaccin. Et il semble que c'est, pour une bonne partie, là, c'est beaucoup... C'est pas ça, là. C'est beaucoup plus des jeunes qui... sont dans leur appart.
Oh ouais.
Ils vivent en appart, trois chums. C'est pas tellement à l'ordre dans l'appart. Non, mais je caricature, mais c'est pas tellement à l'ordre dans l'appart. Puis ils écoutent pas les nouvelles souvent. Puis ils sont ni pro-vaccin ni anti-vaccin. Mais...
un peu encourageant tout de même s'il n'y a pas une réticence vraiment.
Oui, oui, il y en a qui ont une réticence. Mais c'est-à-dire qu'il y en a une bonne partie qu'on pourrait aller chercher. Là, c'est vraiment que des campagnes de communication.
Des loteries comme au Manitoba.
Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Mais trouver une façon de générer de la motivation. Puis que ces gens-là, qui probablement que tu leur donnes, si tu allais sonner à leur porte, puis ils diraient, bon, on va y aller.
Apporte le vaccin, bon, oui. Puis
on va y aller à un moment donné. Oh. Là, mais là, ça n'a pas donné. Je joue au PlayStation. J'étais sur une longue partie. Non, mais tu comprends.
Oui, oui, oui.
Ben oui, on va y aller un jour.
Mais Minecraft est très compliqué, là, oui.
Fait que c'est ça.
Et. Ce qui est intéressant aussi, tu parles de la première dose, Mario, le CDC aux États-Unis a déclaré que le variant Delta était un variant sous surveillance, en fait, qui provoque beaucoup d'inquiétudes parce que ce variant-là est 50% plus rapide dans la transmission que le variant Alpha. Il est deux fois plus original que la branche originale de la COVID-19, deux fois plus rapide, pardon, et provoque deux fois plus d'hospitalisation, quatre fois plus que le virus original, et également, ce variant-là est beaucoup plus dommageable pour les gens qui n'ont pas reçu aucun vaccin.
Ouais. Alors, et résistant aussi à la première dose. On dit, par exemple, pour Pfizer, ça, c'est les Britanniques qui disent que première dose protège à peu près 33% des gens. Donc, c'est vraiment, là, dans le cas du variant Delta, c'est vraiment le variant indien, où les gens pas habitués encore, c'est vraiment les deux doses là, pour avoir une protection qui est valable. C'est ça, c'est précisé. Les Québécois qui sont vaccinés avec Moderna ou AstraZeneca sont aussi inclus maintenant dans la stratégie de devancement des deuxièmes doses.
Voilà, les 50 ans et plus peuvent se rendre sur le site Clic Santé pour le deuxième vaccin. C'était déjà le cas pour les gens vaccinés avec celui de Pfizer. Et les groupes admissibles vont changer, c'est-à-dire de 5 ans chaque jour jusqu'à 18 ans le 23 juin prochain. Par ailleurs, dans les bonnes nouvelles, le Québec va recevoir 1 600 000 doses du fabricant Moderna cette semaine. C'est 500 000 de plus que prévu. Et ça va être pour les deux prochaines semaines. Le Moderna, il est pratique parce qu'il s'entrepose plus facilement, on le sait, et très utilisé dans les pharmacies. AstraZeneca, bon, t'as essayé tantôt, c'était pas simple. Dans les faits, c'est admissible, on peut, mais là, il y a des problèmes avec Clic Santé, ce qui fait que c'est difficile de confirmer le rendez-vous. Et à ce jour, il y a 700 000 personnes qui ont devancé leur rendez-vous pour obtenir la deuxième dose. Et le message d'Horacio Arruda, faites-vous vacciner une deuxième dose avant la fin de l'été si on veut prévenir une quatrième vague. On en parlait un peu d'une quatrième vague au courant du printemps. Ça, c'est comme tranquillisé, mais ce spectre-là semble...
Il y a un groupe d'experts qui signent une lettre ce matin qui disent c'est presque certain qu'il va y avoir... En fait, c'est presque certain qu'il va y avoir une quatrième vague à la fin de l'été. Là, si au Québec, tout le monde est bien vacciné, qu'on est un peu chanceux, ça pourrait être une vaguelette, là, t'sais, un peu de cas qui dérange rien trop des activités normales, peu de gens à l'hôpital, presque pas de décès. On se croise les doigts que ce soit ça, mais on semble, les experts en épidémiologie semblent à peu près convaincus que ça va être difficile d'éviter qu'il y ait un autre passage, là, entre autres du variant Delta, un autre passage là, après l'été. Le masque n'est plus obligatoire dans les garderies.
Voilà, le ministère de la Famille soutient que le port du masque en continu est recommandé, mais n'est plus obligatoire. Ça suit une nouvelle consigne de la CNESST. En raison justement du passage des régions en zone jaune, un travailleur doit désormais porter le masque ou maintenir une distance de 2 mètres ou être protégé par une barrière physique, mais l'obligation du masque en tout temps, elle, n'est plus là. Le nettoyage des livres, des jouets ne sera plus nécessaire. Par contre, évidemment, on va désinfecter les espaces comme les toilettes, salle à manger, par exemple. Et évidemment, si un employé, par exemple, de CPE ou de service de garde va changer de couche, bon, oui, il y aura un port de masque. Évidemment, on veut le favoriser le plus possible, mais il n'est plus obligatoire. Soulagement, évidemment, aussi, là, pour plusieurs personnes. Puis, c'est un petit signe de retour à la normale.
Oui. Puis, dans les services de garde, il y avait une inquiétude supplémentaire là, sur le langage. On disait que voir quand les enfants, tu leur parles, de voir, de lire sur les lèvres, de voir la bouche bouger, ça fait partie pour les enfants, même de l'apprentissage de leur propre langage, etc.
De l'apprentissage pour les enfants, et même le commun des mortels ne s'en rend pas compte, mais nous lisons tous sur les lèvres. Et si je ne t'entendais pas physiquement, j'aurais le réflexe de lire sur tes lèvres. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, c'est vrai que ça a été difficile, cette pandémie-là. Mais pour le développement, oui. Puis le simple fait de ne pas avoir apporté le masque au travail,
ça va déjà être... D'autant plus que c'est l'été.
Oui, ça fait du bien.
Qu'il y aura du temps chaud en masse, ça va être apprécié. Au moins 1500 épisodes de réinfection qui ont été notés. Donc, des gens qui avaient eu la COVID et qui l'ont rattrapé.
C'est ce que l'Institut national de la santé publique a dévoilé aujourd'hui dans les premières données rendues publiques sur les cas de réinfection à la COVID-19. On sait qu'au début, on apprenait en le vivant. Donc, on a su rapidement que des gens pouvaient être réinfectés après l'avoir contracté une première fois. 1522 épisodes de réinfection qui ont été comptabilisés au Québec depuis le début de la pandémie. La bonne nouvelle dans tout ça, donc, c'est que les cas de réinfection représentent environ moins de 1% de toutes les infections dans la province tout de même. Évidemment,
Puis là, ils doivent être caractérisés quand même, parce que je comprends qu'il y a certaines personnes qui avaient été... Ils l'avaient eu une première fois, mais comme un peu asymptomatique, donc n'avaient probablement pas développé une forte immunité. Fait qu'au bout de plusieurs mois, cette immunité-là, c'était probablement effacée ou... n'est plus efficace.
Puis évidemment, la situation des réinfections va continuer d'être analysée par la santé publique. Là. Puis évidemment aussi que, pas dire qu'il y a un avantage à être infecté, mais si tu es infecté avec une dose de vaccin, c'est une immunité qui est atteinte, mais au moins, semblerait que c'est pas si fréquent que ça, qu'une fois que tu as été atteint, au moins la réinfection court pas les rues.
Mais ça, c'est encore une zone grise, à ma connaissance. Que vont faire les gens qui ont eu la COVID? On leur avait dit, puis je pense que c'est encore ça la donnée officielle, on leur avait dit pas besoin de deux doses. Une dose, c'est assez. Ouais. Mais plusieurs experts ont dit, tu peux pas vraiment jouer à ça parce que il y a des gens qui ont eu la COVID avec beaucoup de symptômes il y a 6 mois, c'est sûr qu'ils sont protégés. Mais ceux qui ont eu une petite COVID asymptomatique en avril de l'année passée, ça fait 15 mois de ça ou 14 mois de ça. Est-ce qu'ils sont encore protégés? Et là, tu peux pas poser la question à chacun à 8 ans de mois. Et les experts disaient, pourquoi ne pas simplifions, là, donnons le 2 doses à tout le monde. On a des doses en masse, donnons le 2 doses à tout le monde, puis on va être mieux protégés.
Selon certaines études dans d'autres pays, il y a 80 à 90% d'immunité après une première infection, mais évidemment, ça peut diminuer dans le temps. Et puis, vous pouvez l'attraper une fois, la COVID, 2 fois, et c'est pas impossible que vous l'attrapiez une 3e fois. Donc, évidemment, on prend le vaccin, mais tout de même, 1522 personnes depuis le début de la pandémie, au moins, qui ont recontracté, la COVID-19.
L'application Alerte COVID, ça n'a pas été un gros succès. Je ne suis pas surpris parce qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont téléchargé carrément.
Et on se rappelle à l'époque que le gouvernement Legault avait songé à lancer son application, mais ça aurait été trop compliqué de le faire. On a préféré joindre cette démarche du gouvernement fédéral. Bien heureux parce que ça n'a pas fonctionné beaucoup. 17,5 millions de dollars pour cette application qui a été téléchargée par plus de 6,5 millions de Canadiens. Mais il y a environ 800 000 Canadiens qui ont été atteints par la COVID. Il y en a 33 000 qui ont signalé ça à l'application.
Il y a eu beaucoup de problèmes parce que il y a bien des gens qui ont téléchargé l'application pour se protéger eux. En d'autres termes, si je suis en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID, je vais être averti. Mais beaucoup de ces gens-là, quand eux-mêmes avaient la COVID, là, la santé publique.
On ne sait pas.
Mais oui, la santé publique leur donnait un code pour dire va rentrer ça dans ton application. Là, il y avait peur que ça sache, il y avait peur de déclarer qu'il y avait la COVID ou qu'il y avait eu la COVID ou que ça les pénalise ou que ça les mette sur un banc des accusés quelconque, je sais pas quoi. Donc, les gens le faisaient pas.
Ouais, ouais. Et il aurait fallu que 50 % des Canadiens ou des Canadiens détenteurs d'un téléphone portable télécharge, on était à 20 % et selon l'expert en médias sociaux, Michel Blanc, ben, c'est de l'argent tiré par les fenêtres. Pourquoi on surévalue la capacité de ces applications-là? Parce que elle dit, ben, les gens emploient 3-4 applications. Ils ne sortent pas chaque jour. Ils ne sortent pas vraiment de ces paramètres-là. Donc, on présente ça comme étant une mesure très, très efficace. Et...
Mais ça aurait pu l'être.
Ça aurait pu.
Mais aurait fallu
que dans d'autres pays, ça a fonctionné.
Oui, mais des pays qui l'ont rendu, des pays qui, malheureusement, là, mais heureusement ou malheureusement, ont moins de respect pour nous que pour la vie privée, puis qui le rendaient obligatoire, puis qui disaient, garde, là, c'est ça, puis c'est tout, puis c'était pas anonyme non plus, là. C'était nommément, puis tu t'es rendu à tel restaurant, puis t'avais la COVID, donc là, les gens qui étaient dans ce... Tu sais, t'avais des méthodes beaucoup plus invasives dans la vie privée, mais beaucoup plus efficaces pour faire du suivi, là, pour faire de la... Mais
voilà.
Nous,
on n'était pas là, maintenant.
Non, c'est pas des compromis à notre vie privée qu'on aurait été prêt à faire ici.
Ce qui est fascinant quand on pense à toutes les données qu'on partage avec les applications de
plein de gens qui avaient peur de cette application-là, puis qui se faisaient expliquer par des experts. Oui, mais regarde, tu ton sel, là, t'as météo. Puis sur ton site de météo, t'as coché l'application, t'as coché la fonction me suivre, là, tu sais, à ma position actuelle. Mais.
Puis je sais pas si ça t'arrive, mais Google qui part tout seul, des fois, l'assistant vocal, là, ton téléphone commence à te jaser tout seul, ça arrive à plein de monde, on voit ça aux nouvelles, des fois, le présentateur, là, tu te dis, ça c'est correct, mais l'application COVID-19, elle est dangereuse, elle.
Bon. Revers pour AstraZeneca dans le développement d'un traitement contre la COVID.
L'entreprise était en phase 3 de développement, c'est-à-dire en essai clinique de grande ampleur pour mesurer la sûreté et l'efficacité. Il y avait 1121 participants qui étaient des adultes de plus de 18 ans, qui n'étaient pas vaccinés et qui ont été exposés à une personne contaminée au cours des 8 jours précédents. Mais ce traitement-là a simplement permis de réduire les symptômes de 33 %, ce qui n'est pas suffisant pour aller plus loin avec cet essai-là. Il y a tout de même d'autres tests qui vont se faire pour peaufiner les choses, mais tout de même. Et c'est beaucoup d'argent, Mario, parce que la valeur totale des accords avec les États-Unis entre AstraZeneca et le pays, ben, c'est 726 millions de dollars. Évidemment, des ententes que les pays signent pour s'assurer d'un approvisionnement. Ben là, il va falloir travailler encore parce que, justement, le médicament en question, tant pour prévenir que pour traiter, ben, ne fonctionne pas suffisamment pour l'instant.
Un 13e féminicide au Québec, ça s'est passé durant la nuit dernière à Québec. Et finalement, ben, les policiers n'auront pas eu à courir longtemps. Le suspect s'est présenté au poste de police.
Ouais, suspect qui s'est rendu à la police après qu'une femme dans la cinquantaine ait été retrouvée sans vie, portant des marques de violence dans son logement de Limoilou ce matin à Québec. Nos sympathies d'ailleurs à la famille. C'est une mère de famille, cette dame-là. Les policiers ont d'abord été appelés à se rendre sur l'avenue Duval, près de la rue de la Sapinière d'Orion-Ouest, vers 2h du matin en raison d'une dispute. Et arrivés sur place, les autorités ont découvert le corps inanimé d'une femme dans la cinquantaine. Quelques heures plus tard, à 4 heures, le suspect s'est rendu lui-même au poste de police. Il était en choc nerveux. Il a été hospitalisé puis rencontré par les enquêteurs. Et d'après le propriétaire de l'immeuble où est survenu le drame, il y a deux autres plaintes de violence ou de violentes altercations qui avaient été logées concernant le couple qui vivait à cet endroit. Et dans le voisinage, il y avait une grande consternation ce matin. Pas le premier incident du genre à se produire dans le quartier. En mars dernier, il y a un homme qui s'est enlevé la vie après avoir agressé physiquement sa conjointe dans le secteur. Donc, on dit aux gens aussi, appelez SOS violence conjugale en cas de besoin. Si vous avez des inquiétudes pour vous, pour un proche, 1-800-363-90-10, sosviolenceconjugale.ca.
Ouais, parce que ça devient un fléau à répétition. Grève chez Exceldor, ce matin, les dirigeants de l'entreprise qui disaient on en est rendu à 1 million. 1 million de poulets.
1 million de poulets.
Dont on s'est carrément débarrassé aux poubelles.
Et le ministre du Travail, Jean Boulet, a proposé à la direction d'Exceldor et à ses employés syndiqués d'aller en arbitrage pour mettre fin à ce conflit de travail. Il y a 600 employés de l'usine de transformation de volaille à Saint-Anselme qui sont en débrayage. Ils sont sans contrat de travail depuis juillet 2020. Et bref, il y a 260 producteurs québécois de volaille qui n'ont plus de preneurs pour leur bête depuis ce temps. Et selon le ministre Boulay, ben, la raison pourquoi il y a 50 000 poulets qui sont abattus chaque jour, c'est le conflit de travail. Exceldor avait dit, écoutez, on devrait être déclaré service essentiel. Ben, le ministre Boulay dit, écoutez, vous n'avez pas fait la demande officiellement pour ça. Faites-la, ouais. Peut-être on pourra le considérer.
C'est pas dans le sac. Là. Des services essentiels, ça reste que ce sont généralement des services publics,
voilà.
Des services essentiels. C'est un problème de relation de travail sérieux. Ça interpelle le ministre du Travail. Mais est-ce qu'il peut faire une loi sur le retour au travail comme on ferait pour des paramédics? Je pense pas, là.
Puis ça pourrait sûrement être contesté par la suite parce que, justement, définir la notion de service essentiel, est-ce que ça comprend le poulet barbecue? Pas évident. Mais donc, 1 million de poulets, c'est quand même triste à entendre.
Ah oui, c'est un gaspillage épouvantable. Alors, des membres du Parti vert qui veulent carrément la tête de leur chef qui vient tout juste d'être élu.
Il y avait 3 députés au Parti vert du Canada. Je ne sais pas si c'est les plus petites gangs souvent qui se chicanent le plus, mais il y était 3 et ils sont maintenant 2 parce qu'il y a la députée de l'Atlantique, Janissa Atwin, qui a claqué la porte. Elle avait dénoncé, elle avait pris la parole pour s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien et avait pris...
Elle a pris parti des Palestiniens.
Voilà.
Alors qu'il y a dans l'entourage de Mme Paul un organisateur qui, lui, est vraiment très pro-Israël. Et là, le parti est en train de péter là-dessus.
Oui. Et bref, il l'avait qualifiée d'antisémite. Depuis, elle a rejoint le Parti libéral, si bien que là, ben, le feu est pogné, comme on dit en bon français. Et il y a des membres qui ont fait donc ces démarches pour une procédure de destitution. Ça va se dérouler ce soir. Ce ne serait pas un très long règne pour Mme Paul si elle est battue.
Si elle n'est pas battue...
Ben, ça part mal, disons.
Ouais, disons que ça va saper son autorité.
Un peu comme quand Martine Ouellet avait eu beaucoup de difficultés au bloc. Tu peux rester en poste un certain temps, mais vendre des cartes de membres, c'est pas évident.
Je te dirais, c'est fini là, pour elle, là, au Parti vert. Elisabeth May, d'ailleurs, qui a l'air d'être pas mal découragée là, de l'état dans lequel tout ça laisse le Parti vert. Et finalement, Ben Affleck et J-Lo...
ils se sont retrouvés. On sait que Jennifer Lopez a quitté A-Rod dernièrement. Eh bien, ils ont été vus, Mario, en train de s'embrasser sur la terrasse d'un restaurant à Malibu ce dimanche. Alors, ils étaient, selon les informations de Page Six du New York Post, l'acteur et la chanteuse participaient à une soirée pour la fête du 50e anniversaire de la chanteuse. Et évidemment, ils ne se sont pas gênés. Donc, un petit baiser et Ben et Fer sont inséparables. C'est au moins ça de positif en 2021.
Non. On retient ça de l'année.
Brad et Angelina, peut-être.
Ah, oui. Ça va être plus tough, ça, d'après moi.
Je pense que oui.
Culture et société.
Et c'est Jordan Dupuis qui est là à la culture. Bonjour!
Salut Mario. Ça me fait beaucoup rire parce que je me suis dit, est-ce que je fais le sujet de Jennifer Lopez?
Mais fais-le! Qu'en penses-tu?
Puis en fait, j'ai même réfléchi parce que tu sais que on appelle ça Bennifer parce que c'est des coupes vedettes. Hein. Il y a Brangelina. Puis là, je me suis littéralement posé la question aujourd'hui. Toi, Marie-Claude, ça serait quoi votre surnom?
Oh!
Fait que je me suis posé la question. Vous êtes quand même un coupe vedette.
Moi, je me suis jamais posé la question.
Moi, je l'ai fait à ta place. Donc, Marie-Claude et Mario. T'as bien beau leur virer tous les bars, ça fait quand même Marie-Claude et Mario. Fait que le meilleur compromis que j'ai trouvé, ça serait MC Mario.
Oh! ça serait déjà pris.
Je le sais, mais t'aurais le surnom d'un fameux DJ des années 90. C'est bon. C'est extraordinaire. Fait que vous avez le même début de nom, c'était vraiment compliqué. Fait que MC Mario, ça plaît à tout le monde. Fait que voilà. À quand tes prochains... des prochains scandales avec toi, voilà. Marc-Claude.
Tu nous parles de la pièce « Nous nous sommes tant aimés ».
Oui, vraiment. Donc, j'ai eu l'immense plaisir de discuter avec Marie-Hélène Thibault, qui est l'actrice principale de cette pièce-là qui prend l'affiche ce jeudi et jusqu'au 14 août. C'est au Petit Théâtre du Nord. Est-ce que tu es déjà allé là?
Petit Théâtre du Nord, je pense pas.
C'est à côté de Boisbriand. En fait, c'est dans la vieille église de Boisbriand. C'est un théâtre magnifique dans une église ancestrale. Honnêtement, c'est à genre 35 minutes de Montréal. Allez faire un tour là. C'est un texte de Simon Boulris, qu'on connaît bien, qui est à Sucré-Salé d'ailleurs. C'est une mise en scène de Charles Dauphinet avec Louise Cardinal, Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier, Mélanie Saint-Laurent. Donc, Marie-Hélène Thibault, pour ceux qui ne la replacent pas, c'est notre chère Lucie dans L'Heure Bleue. Alors voilà. J'ai discuté avec elle parce que le sujet de la pièce, il est vraiment cool, en fait. C'est très simple. Elle joue le rôle d'une animatrice de radio culturelle, un mélange entre Christiane Charette et Véronique Cloutier, par exemple, qui, finalement, 30 ans plus tard, s'en va s'asseoir, prendre un verre avec ses amis du secondaire et elle décide de régler des comptes. Donc, on a tous un rapport très trouble avec notre secondaire, une espèce de relation d'amour-haine, comment qu'on a vieilli, on a des crottes sur le cœur. C'est un terrain de jeu super fertile et on a tous eu des retrouvailles, puis on s'est tous posé la question, m'en vas-tu aller là, m'exposer au passé, puis comment je vais me présenter? Donc, je vais poser la question à Marie-Hélène, est-ce que tu en as eu des retrouvailles, puis comment ça s'est passé? La réponse est bien intéressante.
Hey, moi, j'en ai même eu là du primaire. Alors, moi, j'étais à la même école primaire que Catherine Sénard, qui est une comédienne également, qui, elle, est rentrée à l'école tout de suite après le secondaire. Elle avait réussi, et pas moi. Puis, avec Catherine, on s'est retrouvés, puis on est allés à notre retrouvaille de primaire il y a quelques années. Tout ça, ça faisait 25 ans. C'était assez... Je suis vraiment pas bonne. Il y a des gens qui se souvenaient de façon assez troublante de plein de choses. Et moi, un peu vague dans mes souvenirs, en fait, tu sais, comme si c'était pas tant là que c'était marquant, ou je sais pas trop. Puis, c'est ça, il y avait des révélations de un tel est en prison, ou un tel qui se passe, c'est le premier gars que j'ai embrassé. Ouais, ben c'est ça, ça s'est mal passé. Il a comme investi de l'argent pour d'autres gars de sa gang, puis là, il les a roulés un peu.
C'est un terrain fertile. Donc, imaginez ça, c'est ces anecdotes personnelles. Donc, évidemment, dans le cadre d'une pièce de théâtre, ça va.
Mais moi, j'ai beaucoup ce syndrome-là que je suis toujours étonné de comment il y a des gens, dont je ne suis pas, mais qui se souviennent là, d'un voyage étudiant là, dans l'autobus en revenant. Ouais. Quand ils disent, là, par petits bouts, ça me revient, comme des diapositives. Ouais. Mais tu dis, mais... comment ils se souviennent de ça?
C'était à ce point marquant pour eux?
C'est ça. Ouais. Tu penses que leur vie par la suite fut tellement plate qu'elles disent...
on glisse à l'oreille que probable.
Il n'y a rien eu d'autre à graver de plus important sur le disque dur, là, cet espace-là.
Qu'une ride de skidou en 92.
Là. Mais enfin, bon...
Es-tu allé à tes retrouvailles?
Ça fait longtemps que je suis pas allé. Ça fait longtemps que je suis allé.
Il
n'y
en aura pas d'autres.
Allé,
hein? c'est pas à chaque mois. Là.
Je suis allé peut-être les 20 ans de mon secondaire, 25 ans, je ne sais plus.
Moi, j'ai choqué. Ouais. Mais après, il faut dire que je pesais 340 livres à l'époque. Fait que de revoir mes intimidateurs, j'étais moins à l'aise.
Mais les deux dernières, j'ai pas pu y aller. Ça arrivait à des dates où je travaillais, où je ne pouvais pas.
Ben écoute, tu as le temps de travailler ton narratif d'ici là.
Ben oui.
Deuxième.
Coldplay.
Oui, donc Coldplay. Coldplay a le goût. De chanter sur la lune, c'est partout sur les réseaux sociaux. En fait, Coldplay a lancé cette chanson-là qui s'appelle Higher Power. Moi, j'adore Coldplay. On écoute ça tout de suite. Oh yeah, you've got a higher power and she really someone I wanna know. Donc, très belle chanson, clip extraordinaire qui se passe un peu dans un univers spatial. Et pour le lancement de cette chanson-là, il y a un mois, ils ont jasé avec Thomas Pesquet, qui est un astronaute, en direct de la Station spatiale internationale. Fait que là, ça lui a donné l'idée d'être le premier chanteur à chanter en direct de l'espace. Me semble que j'ai un malaise à ce que ça soit Coldplay. Qui briserait l'histoire en chantant. Qui t'enverrait? C'est cette question-là que j'avais envie de te poser.
Pourquoi pas Coldplay? Là?
Mais est-ce que tu trouves qu'ils ont... L'histoire, là, l'histoire
mais
humaine.
Moi, c'est
là.
Pas fait, là. C'est pas... Le temps qu'on soit prêt pour ça, ils vont avoir de l'âge, le Coldplay, quand même.
Mais quand même, mais il semble.
Aller dans l'espace, faut être... au niveau santé, il faut être... pas juste à moitié en forme, là.
Mais à moins qu'Elon Musk se mette là-dessus, là, mais
oui.
Mais toi, t'enverrais littéralement Coldplay? Et qui tu avais à, mettons, parce que là, on parle quand même de déterminer la culture humaine dans l'espace, tu sais, donc ça serait, c'est quand même...
Ben là, si tu vas dans l'espace, t'en envoies une que t'es sûr qu'il manquera pas son coup, t'envoies Lady Gaga.
Oh, ça, c'est tout ça. C'est une bonne idée. Oh, bravo. Moi, évidemment, c'est-tu qui j'enverrais? Non. Je sais que ça va pas faire l'unanimité, tout le monde l'aïe, mais moi, je l'aime, ça serait elle. Ça serait Mariah Carey que j'enverrais, la plus grande chanteuse, la number one selling female artist of all time, et surtout pour la simple, unique et bonne raison qu'elle atteint les notes que les dauphins sont capables d'atteindre. Donc, je me dis peut-être qu'elle va capter un signal extraterrestre en direct de l'espace. Fait que, ben, je trouvais ça, c'est une belle initiative de Coldplay. Et peut-être que ça va donner envie à justement des... J'avoue que Lady Gaga, ça serait vraiment extraordinaire. Très bonne idée.
Parce que t'es sûr, moi, mon
point. Elle ratera pas sa shot.
Elle rate jamais sa shot.
C'est sûr.
Et n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, c'est le max.
Exact.
Festival d'été de Québec, on a un petit peu plus de souplesse dans les règles.
Oui, exact. Donc, ça, c'est une très belle nouvelle, parce que le Festival d'été de Québec, moi, j'adore ça. Puis on est des milliers sur un terrain à suer en gang, qui, évidemment, c'est pas possible cette année. Donc, les spectacles, donc la première vente de billets était sold out. C'était 250 places au manège militaire. Et là, ils ont pu, avec les mesures sanitaires, élargir ça à 500 places. Donc, une deuxième vente de billets qui va avoir lieu ce jeudi dès midi. C'est encore des billets qui sont à la pièce. Tu peux acheter des tables. Il y a des shows qui vont être diffusés en ligne et d'autres, évidemment, en présentiel au manège militaire. Donc, il va y avoir Cœur de pirate, deux frères, Michel Pagliaro, Pag va être là.
Ben oui.
C'est quand même cool, ça. Marie-Mé, il y aura aussi Clay and Friends, Steve Hill, Tire le Coyote. Donc, une programmation 100% québécoise.
Mais là, tu peux pas avoir une passe, dans le fond. Compte tenu que tout est limité, les places sont limitées.
Exactement.
C'est place par place. Là.
C'est place par place. Donc, et là, imaginez, là, 500 personnes pour chaque concert. Donc, le monde qui veut se garrocher, aller voir Michel Pagliaro, je vous conseille de vous connecter à 11h15 sur le site du FEQ.ca pour vos billets, parce que c'est une édition qui est particulière, parce que honnêtement, ça fait partie du trip d'être en groupe au Festival d'été de Québec. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va...
Quelle atmosphère de festival créer. Ouais.
C'est ça, voilà.
Merci, Jordan.
C'est un plaisir.
Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
Salut, Pierre-Olivier.
Bonjour, Mario.
Là, je sens que tu vas nous instruire. Alors, tu nous parles de BRP, les produits récréatifs, le constructeur de motoneige et de Sea-Doo, mais qui va de l'avant avec, et là je lis, une procédure d'adjudication à la hollandaise modifiée. C'est ça?
Exactement ça. On dirait une recette, Mario, hein? On dirait une sauce hollandaise. En fait, je lisais ça dans le communiqué de presse émis par BRP, anciennement Bombardier Produits Récréatifs, donc le constructeur de Sea-Doo de VTT. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, une procédure d'adjudication à la hollandaise modifiée? Ben, pour parler français, c'est simplement que BRP a trop d'argent et va racheter des actions.
Maudit problème.
Maudit beau problème. L'entreprise va racheter 350 millions de dollars d'actions au cours...
De ses propres actions.
De ses propres actions à un prix entre 94 et 113 dollars par action. Et c'est une autre preuve, Mario, que l'entreprise a bénéficié de la pandémie de façon extraordinaire. Quand tu regardes les derniers chiffres du trimestre, là, des revenus de près de 2 milliards de dollars en hausse de 50% par rapport à l'an dernier, les ventes de motorisés en hausse de 39%. Tu regardes les bénéfices, donc le profit. C'est en hausse de par rapport à l'an dernier de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, BRP nage dans les millions de dollars. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a trop d'argent et on est une entreprise? Soit on la réinvestit dans ses usines, dans ses installations technologiques, soit qu'on en profite pour faire des acquisitions, ou encore, si on ne fait pas ça, ben on rachète des actions. Et en rachetant des actions, via cette procédure hollandaise modifiée, l'entreprise va répartir ses bénéfices sur moins d'actions. Donc, ça va augmenter le bénéfice par action, donc le profit que chaque actionnaire va pouvoir toucher théoriquement, là. Et c'est le ratio qu'on utilise pour mesurer la santé financière d'une entreprise. Donc, BRP a moins d'actions en circulation parce qu'on va en racheter
plus de 350 millions de dollars.
Fallait en acheter il y a 5 jours. Quand l'action était à 90 $, là, elle est à peu près à 97 $. Et les analystes, Mario, plusieurs analystes prévoient que le titre pourrait atteindre jusqu'à 130 $ d'ici 12 mois. Lors de la publication des résultats trimestriels, même si BRP a pulvérisé des records, le titre a beaucoup baissé même en bourse, parce qu'il y a des craintes liées à l'approvisionnement des pièces. On ne sait pas si BRP, au cours des prochains mois, va être capable de livrer la marchandise. Donc, l'été s'annonce chaud. Les ventes de Sea-Doo se portent très bien.
Mais est-ce qu'on va réussir à répondre à cette demande-là? Il y a un point d'interrogation. On en a déjà parlé à ton émission, à la mienne. Il y a une pénurie de pièces, pénurie de microprocesseurs. Et ça, ça a un impact sur la capacité de BRP à fabriquer ces motomarines, ces skidoo, et donc répondre à cette demande qui est croissante. Et l'autre point d'interrogation, est-ce que les gens, une fois qu'on va pouvoir voyager, sortir du pays, vont continuer à s'acheter des bateaux, à s'acheter des véhicules tout-terrain? Ça, c'est un autre point d'interrogation. Est-ce que c'est la folie pour cette catégorie de produits-là va s'essouffler? Plusieurs experts disent non, c'est une industrie qui a le vent dans les voiles, mais il est permis d'avoir un léger doute, là.
Et on se parle aussi de poulet. Ce matin, dans la direction d'Exceldor, on a demandé une intervention gouvernementale et on en profitait pour faire le point sur le nombre de poulets euthanasiés qui atteint maintenant 1 million.
En 3 semaines au Québec, et c'est un dossier qu'on suit de près, on a euthanasié, donc asphyxié et jeté littéralement 1 million de poulets. Et là, c'est une telle quantité de poulets, Mario. Tu connais l'entreprise Sanimax? C'est l'entreprise qui va récupérer souvent les déchets.
Les carcasses d'animaux.
Les carcasses d'animaux, exactement. Habituellement, Sanimax va aller chercher les carcasses, va les transformer. Puis tu sais, on aurait pu utiliser ça, par exemple, pour de la nourriture pour animaux ou en faire de l'engrais, peu importe. Mais là, la quantité de poulets euthanasiés et asphyxiés est telle qu'on n'a pas le choix. Ça s'en va directement à l'incinérateur. Tout le monde en convient, c'est honteux, c'est vraiment honteux. Tout ça est lié à la grève, on le rappelle, à l'usine de Saint-Anselme, près de 600 employés d'Exceldor qui ont amorcé un débrayage il y a cela quelques semaines. Et là, les abattoirs du Québec ne suffisent plus. La direction d'Exceldor demande une intervention du gouvernement. Le ministre du Travail, Jean Boulay, lui a rétorqué, pas question d'y aller d'une loi spéciale pour l'instant pour forcer un retour au travail. Mais il propose une solution aux deux parties, aux syndicats et aux patrons. Demander la nomination d'un arbitre, demander au ministère qu'un arbitre soit nommé. Ça va forcer un retour au travail. On va rouvrir l'usine de Saint-Anselme. L'arbitre va trancher dans le conflit de travail et le dossier sera réglé. Mais pour l'instant, les patrons ne semblent pas enclins à demander l'intervention d'un arbitre. D'ailleurs, je vais recevoir un des vice-présidents d'Exceldor ce soir à l'émission pour tenter d'y voir plus clair et de savoir s'il n'y a pas une solution à trouver. Là.
C'est une discussion intéressante à suivre. Merci beaucoup, Pierre-Olivier.
Merci, Mario. À plus.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Alors, chronique, comme on l'a fait depuis 2 semaines, sur les régions à visiter. On prépare vos vacances d'été et vous le savez, vous avez connu ma méthode. J'ai voulu avoir comme guide touristique les députés de chacun de ces coins du Québec. Aujourd'hui, c'est spécial parce que techniquement, elle doit faire la promotion touristique de tout le Québec, mais aujourd'hui, on a la force de faire la promotion de sa propre région, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Bonjour.
Bonjour à vous deux. Bonjour Mario.
Bonjour député de Berthier. Je préparais l'entrevue, je me disais la région de la Naudière, la petite voisine des Laurentides dans le nord de Montréal, on a l'impression que sur le plan touristique, elle est moins connue. Là, l'appellation Laurentides fait comme un siècle qu'on part de Montréal, on va dans les Laurentides. Comme si la Naudière, c'est plus nouveau, plus à découvrir. Est-ce que je me trompe?
Non, tu comprends Mario, puis c'est vrai qu'on voit cette progression-là d'amour pour la Naudière, c'est-à-dire depuis les 4-5 dernières années, où le tourisme nature-aventure, évidemment, est en forte progression, mais aussi les immeubles dans la Naudière, c'est vraiment depuis quelques années le berceau de la viticulture, nouvelle génération, qui sont des visionnaires, qui sont convaincus du potentiel du terroir dans le coin chez nous, du côté de Saint-Gabriel, du côté de la Noret, plus au sud, le long du fleuve, évidemment, t'as des randonnées de vélo le long du fleuve qui sont absolument spectaculaires. Vous allez dire, vous prêchez pour votre village avec Saint-Jean-de-Matan. C'est vrai que, Mario, l'abbaye Val-Notre-Dame, celle qui était du côté d'Oka, les moines trappistes, sont installés à Saint-Jean-de-Matan depuis quelques années. Un bâtiment 100% lead, avec des chants grégoriens, mais absolument fabuleux, une boutique artisanale là-bas où ils font évidemment beaucoup de produits, ne serait-ce que des fameux bleuets enrobés de chocolat.
Ils sont célèbres.
C'est vraiment, vraiment magnifique. Mmh. Ah non, puis le site est absolument magnifique. Vous avez des sentiers derrière avec la montagne coupée. Évidemment, Saint-Michel-des-Saints, le réservoir Taureau.
Ouais, mais il faut en parler là, quand même, parce que il y a une vedette dans le grand nord de Lanaudière, l'un des villages les plus au nord de Lanaudière, Saint-Michel-des-Saints, l'auberge du Lac Taureau, le réservoir du Lac Taureau, qui est un immense lac là. C'est spectaculaire.
Ah, c'est grandiose, et l'auberge est absolument splendide. Et lorsque vous empruntez la fameuse route 3, pardon, dont on a annoncé la réflexion, le pavage, qui va enfin, Mario, réunir les Laurentides à la Lanaudière et sur le site des Saints à Saint-Donat. Là, présentement, est en terre battue. Mais vous traversez le début du parc du Mont-Tremblant. Donc, le parc du Mont-Tremblant vient flotter également avec la Lanaudière au nord. C'est vrai qu'au nord, les scènes sont absolument spectaculaire. On tombe dans des chaînes de montagne qui sont quand même un peu plus impressionnantes. Parc régional des Sept Chutes, super randonnée, 3
heures. Ça, c'est à Rawdon?
Non, c'est à Saint-Zénon. Saint-Zénon, puis des pourvoiries, évidemment, chaque région touristique.
Saint-Zénon, qui est juste en bas de Saint-Michel-des-Saints, c'est pas le village au Québec, là, je m'avance, là, qui se vante d'avoir le plus de lacs. Je me trompe-tu où il y a des centaines de lacs dans ce seul un village, il y a peut-être, je sais pas, 1000 ou 2000 habitants, mais un territoire gigantesque et des lacs à perte de vue. Donc plusieurs avec des pourvoiries, des places pour pêcher.
Oui, c'est exactement là, à Saint-Zénon, de superbes pourvoiries, effectivement, beaucoup, beaucoup de lacs. Mais tu as un demi-million de lacs et de rivières au Québec. On part avec cet énorme chiffre-là. Dans la Lanaudière, on est particulièrement gâtés. Puis, évidemment, il y a la belle Joliette, hein, belle ville que celle de Joliette, avec le musée d'art de Joliette, qui est un très important musée au Québec. Il y avait l'exposition d'artistes de la Manawan, qui ont été là une grande partie de l'hiver, avec une vue absolument imprenable sur la rivière, l'Assomption. Beaucoup de kayaks, beaucoup de canaux libres, avec des descentes assez accessibles. Du côté de Saint-Côme, particulièrement. Donc, la Lanaudière, oui, qui commence à faire un peu d'ombrage aux Laurentides et à sa voisine, la Mauricie. Il se distingue particulièrement par ses lacs et ses rivières.
Ouais. Et il y a le bord de l'eau. Il y a la ville de Berthier elle-même là, qui a pas mal à offrir.
Musée de Ville-Villeneuve.
En partant.
Oui, très important attrait touristique. Je suis allée il y a 2 ans, Mario, ils ont additionné des collections vraiment extrêmement intéressantes. Puis de la Valtrie à Berthierville, t'es tout le long du fleuve. Il y a des descentes pour les amateurs de pêche, aller pêcher sur le fleuve Saint-Laurent. Très bonne prise à faire sur le fleuve Saint-Laurent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accès entre la Valtrie, la Norée, et Berthierville, plusieurs descentes pour les amateurs de pêche d'une journée.
Et plusieurs beaux terrains de golf dans la Lanaudière quand même, là.
Ben, celui de Saint-Jean-de-Mathieu, je suis un peu chauvine, me diras-tu. Mais c'est un des beaux
terrains. Je me souviens qu'il y a un trou dont le verre, c'est un par 3, dont le verre est sur une île, puis tu frappes devant une chute, puis il faut que tu embarques sur l'île en haut.
Oui, c'est ça. T'as un mur d'eau devant toi. Départ beaucoup plus difficile pour les hommes que pour les femmes, mais effectivement, un trou très difficile, le 17 particulièrement prenant, avec une vue sur le lac Noir, avec une courbe en bas et une vision cachée du 17e, un long coup au 17e, un très, très beau terrain de golf. T'en as plusieurs dans la Lanaudière, les terrains de golf. Je me rends compte que je vous ai tutoyé, M. Dumont, tout le long de cette entrevue-là.
Je parle à la ministre du Tourisme maintenant. Oui. Toujours optimiste sur l'été touristique au Québec. On comprend qu'on n'aura pas beaucoup de tourisme international encore une fois. Mais vous pensez que les Québécois vont comme l'année passée, découvrir leur Québec?
Meilleur que l'année passée. Je suis dans le Bas-Saint-Laurent et déjà, là, on sent les touristes qui décident d'arriver un peu plus tôt ou d'amorcer leurs vacances ou de les itinérer un peu plus tôt. Je suis dans le Bas-Saint-Laurent, du côté de Rimouski, dans votre coin également. Là, je suis à Saint-Mathieu de Rio et on voit là, que l'hébergement, les gens commencent à arriver partout dans le Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord également, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, les gens qui décident d'amorcer leurs vacances. Tout meilleur été touristique, selon moi, que l'année dernière, particulièrement tenant compte de la réouverture des frontières avec l'Ontario demain, qui, faut pas l'oublier, est le marché principal de touristes hors Québec. Ce sont les Ontariens.
Caroline Proulx, merci beaucoup d'avoir été là. Bon été.
Merci.
Au revoir,
à vous.
La députée de Berthier et ministre du Tourisme. On fait une pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
On est de retour. Annonce ce matin, deux ministres du gouvernement qui étaient là pour parler d'exploitation sexuelle des mineurs. On a créé une équipe là, d'enquête spéciale. Il y avait à l'occasion la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, mais aussi le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Parlez-nous un peu de cette stratégie pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. De quoi est faite cette nouvelle équipe d'enquêteurs?
Bien, en fait, on va mettre à profit des enquêteurs là, de plusieurs grandes villes du Québec, notamment une escouade pour lutter contre le proxénétisme, mais également le proxénétisme en ligne aussi. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de recrutement des enfants par le biais d'Internet également. Alors, on veut lutter contre ça, contre la pornographie juvénile notamment. Et aussi, on vient jumeler ça avec l'ajout de procureurs aux poursuites criminelles et pénales, justement pour avoir des équipes intégrées avec les différents corps de police. Les procureurs de la Couronne vont être là pour conseiller, pour accompagner, pour mieux soutenir également les victimes. Alors, on ajoute 9 procureurs au DPCP pour s'assurer de lutter contre ce fléau-là. Vous savez, il y a eu une commission spéciale à l'Assemblée nationale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Il faut mettre fin à ces crimes odieux envers nos enfants. Alors, c'est pour ça qu'on agit aujourd'hui et qu'on a investi près de 100 millions sur 5 ans.
Vous voulez arrêter des proxénètes ou des proxénètes et des clients? Parce que cette question-là, elle est souvent posée. Évidemment, c'est pas, on dira, c'est pas exactement la même gravité. Là, le proxénète lui organise toute une affaire. Mais en même temps, s'il n'y a pas de clients, s'il n'y a personne qui est prêt à payer des prix importants pour avoir des services sexuels de mineurs, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de business tout court, là.
Ben, vous avez tout à fait raison. Alors, on veut agir sur les deux volets. À la fois les proxénètes, mais à la fois les clients. Qu'on les appelle désormais les abuseurs aussi. Parce que vous savez, des enfants mineurs qui sont pris dans ce genre de réseau-là, qui sont exploités sexuellement, ce sont des victimes. Et les gens qui consomment ce type de criminalité-là, ce sont des abuseurs qui agressent sexuellement des enfants. La traite de personnes, le proxénétisme.
Vous avez raison de faire la précision, parce que c'est pas parce qu'ils ont payé 300$ qu'ils deviennent un client légitime d'une business. Là, ils sont des abuseurs.
Exactement, exactement. Il faut envoyer un message fort dans notre société, puis on a entendu plusieurs témoignages à l'Assemblée nationale au cours de la dernière année et demie relativement à ça, puis des témoignages de personnes victimes aussi. Alors, c'est pour ça qu'on envoie un message fort. On donne suite aux recommandations du rapport sur l'exploitation sexuelle. Et déjà, aujourd'hui, c'est une annonce en matière de répression, mais déjà, on avait agi pour les personnes victimes. J'ai fait adopter le projet de loi 84 sur la réforme de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, qui, ça, désormais, maintenant, les personnes victimes n'auront plus de délai pour demander du soutien financier, du soutien psychologique, et surtout on rend admissible le proxénétisme et la traite de personnes dans la liste des crimes qui sont couverts, parce qu'auparavant c'était pas couvert par l'ancien régime de l'UVAC. Alors désormais on veut mieux accompagner les personnes victimes, puis c'est ce que le projet de loi 84, désormais la loi 84, va faire lors de son entrée en vigueur au mois d'octobre prochain.
Je reviens aux clients. Est-ce qu'un client, lorsque vos escouades seront complètement en place, là, va avoir un risque beaucoup plus grand de se faire attraper? Parce que c'est ça aussi, là. Plusieurs clients sont des gens qui ont une vie de famille, un métier, des gens qui se pensent honorables dans le reste de leur vie et qui font quand même ça dans la confiance que, tu sais, les chances de se faire prendre sont très, très, très minces, là. S'ils voyaient que les chances de se faire prendre sont élevées, ils mettraient peut-être un terme à leur activité.
Bien, tout à fait. L'objectif aujourd'hui, c'est de dissuader d'aller chercher ce genre de services d'exploitation sexuelle-là. Parce que vous savez, au niveau des corps policiers, on va être à près de 100 personnes ressources. Désormais, avec les ajouts qu'on fait aujourd'hui, on crée également la première escouade virtuelle au Québec pour lutter contre la pornographie juvénile. Donc déjà, ceux qui sont sur le terrain pour l'exploitation sexuelle, ça demeure, mais également, ça se retrouve beaucoup sur le web désormais aussi. On a vu, là, il y a eu des projets pilotes dans les corps de police. Alors, on agit à ce volet-là, mais il faut que la société dise clairement qu'elle réprime ce genre de comportement-là d'individus abuseurs. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en mettant l'accent sur les ressources qui doivent être octroyées. Dans les grandes villes, on parle de Gatineau, Québec, Laval, Montréal, Longueuil, où le bassin d'offres est le plus grand et où il y a le plus d'abuseurs relativement aux enfants. Alors, c'est un message clair qu'on envoie pour dire qu'au Québec, c'est complètement inacceptable.
Alors qu'on implante des efforts comme ça au Québec, est-ce que vous avez l'intention d'intensifier les discussions ou de fouiller la question avec vos homologues, je pense, à l'Ontario ou même d'autres, peut-être plus dans l'Ouest canadien? Parce que on entend ces histoires, là, que des crottés qui recrutent nos filles, parfois la première chose qu'ils veulent faire, c'est de les sortir du Québec. Là. Ils vont prendre des jeunes filles à la porte d'un centre jeunesse à 14-15 ans au Québec, mais le but étant de les amener soit à Toronto ou dans l'Ouest canadien. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y a, à mon avis, une bonne collaboration déjà entre les corps policiers des différentes provinces?
Oui, actuellement, il y a déjà une bonne collaboration, mais vous avez raison, c'est souvent une stratégie des proxénètes de prendre des jeunes filles québécoises et de les amener dans la région Niagara, Toronto ou dans l'Ouest canadien. Et justement, pour déstabiliser la victime, lui enlever ses pièces d'identité, souvent elle ne connaît pas la langue dans une autre province. Alors oui, ça fait partie du plan qu'il y a des mesures renforcées pour les corps de police entre les différentes provinces pour qu'ils puissent agir ensemble. Et vous savez, c'est tout aussi dégradant pour eux que leurs enfants soient victimes de ce genre de crimes d'exploitation sexuelle-là. Alors, il y a une bonne collaboration entre les différents États.
Sur un autre sujet, puisque je vous ai avec moi, vous êtes le ministre responsable de la loi 96 sur la langue française, mais le projet de loi qui inclut le fait de nommer le fait que le Québec est une nation, de l'inclure dans la Constitution canadienne, à l'article 45, avec la langue française. Vous pensez quoi de la motion qu'a déposée le Bloc aujourd'hui, là, qui va être votée demain? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce que vous invitez les parlementaires de tous les partis à voter pour?
Ben oui, on invite tous les parlementaires de tous les partis à voter pour cette motion parce que ça reprend ce qu'il y a dans le projet de loi 96. Et je crois que, bien qu'on n'a pas besoin de la motion, parce que très clairement, dans le projet de loi 96, on vient affirmer qui nous sommes et on n'a pas besoin de demander à personne de venir définir qui nous sommes parce qu'on le fait nous-mêmes. C'est la première fois qu'on fait un geste d'affirmation aussi fort à l'intérieur d'une loi québécoise. Mais je pense que les Québécois vont constater, à la lumière du vote qu'il y aura demain, l'appui qu'il y a à cette motion. Mais une chose est sûre, c'est que le Québec prend son destin en main avec ce qui est écrit dans le projet de loi 96 relativement au fait que les Québécois et les Québécoises forment une nation. Et ça, je pense, c'est indéniable.
Vous souhaitez que les gens votent pas, mais est-ce que vous dites qu'on n'a pas de permission à demander de ce point de vue-là? Est-ce que le Bloc québécois fait œuvre utile de faire prononcer tous les parlementaires fédéraux là-dessus? Ou est-ce qu'ils font juste de la politique en s'accrochant à votre initiative?
Non, mais je pense que si la motion est adoptée, ça va faire d'autant plus renforcer le consensus à l'effet que les Québécois et les Québécoises forment une nation, que la langue officielle du Québec, c'est le français. D'ailleurs, je note qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral reconnaît officiellement dans un projet de loi présenté que la langue officielle du Québec, c'est le français.
J'allais aussi vous poser la question. Vous l'aimez, le projet de loi de Mme Mélanie Joly, la réforme de la loi sur les langues officielles?
Ben écoutez, je vais en prendre connaissance d'une façon approfondie parce qu'il vient tout juste d'être déposé aujourd'hui. Mais pour moi, c'est clair que lorsque on protège le français, il s'agit d'une avancée. Sur les modalités, il y aura des discussions avec le gouvernement fédéral. Une chose qui est claire pour moi, c'est que la responsabilité historique de protéger le français, elle appartient à l'État québécois, au gouvernement du Québec, et surtout que les lois québécoises s'appliquent sur le territoire québécois à l'ensemble des entreprises. Alors, on aura des discussions avec le gouvernement fédéral.
Mais ça, c'est pas... OK. Là-dessus, vous n'avez pas satisfaction, là, parce que vous auriez souhaité qu'on rende clair que les entreprises à charte fédérale soient soumises à la charte de la langue française. C'est pas ce que préconise Mme... Elle veut arriver au même objectif, là, mais elle veut garder le contrôle.
Ben écoutez, moi, c'est très clair. Ce que j'ai écrit dans le projet de loi 96, c'est que toutes les entreprises du Québec sont assujetties à la loi 101. et c'est ce que j'ai l'intention d'avoir comme politique. Mais on aura des discussions éventuellement avec avec Mme Joly relativement aux modalités. Mais une chose qui est sûre, c'est que je pense que c'est important de souligner que le Canada reconnaît que le français, c'est la langue officielle du Québec et que lorsque les gens travaillent pour protéger le français, il faut souligner leur travail.
Bien entendu. Merci d'avoir été là.
Merci à vous. Bonne journée.
Le ministre de la Justice, responsable de la Charte de la langue française, Simon Jolin et Barrette.
Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Bien, on enchaîne tout de suite avec un sujet que certains diront qui est un peu contigu, criminalité, problème de jeunes et de moins jeunes, mais le trafic d'armes à feu qui a été un fléau à Montréal. Il y a eu annonce en la matière aujourd'hui. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est avec nous. Bonjour, Mme Plante.
Bonjour, M. Dumont.
Et ça a été vite quand même avec le déconfinement. Là, dès qu'on a recommencé à avoir de l'activité nocturne un peu régulière, on a eu tout de suite des échanges de coups de feu. Ça vous a inquiété?
Ben oui, ça a commencé même, je vous dirais, au printemps. Le chef de police le dit souvent, là, à chaque printemps, là, quand on commence à faire beau, il y a une augmentation des crimes. Ceci étant dit, cette année, probablement à cause du confinement, ça a commencé déjà à jouer du coude plus tôt. Et dès que les mesures de déconfinement là ont commencé, ça a augmenté, entre autres dans le Vieux-Montréal, mais également ici dans le nord-est de Montréal.
Ouais. Qu'est-ce que l'annonce d'aujourd'hui fait comme différence?
Oui, ben écoutez, ce que Québec est venu nous annoncer, parce que j'étais en compagnie de Mme Guilbeault, c'est un ajout de 5 millions de dollars pour l'escouade ELTA. ELTA, là, qui est vraiment l'escouade de lutte contre le trafic d'armes. ELTA, finalement, vient, ajoute ses efforts à tout le travail des patrouilleurs qui, eux aussi, saisissent des armes, mais ELTA, elle va plus en profondeur pour un peu trouver les têtes de réseau, pour découvrir là d'où est-ce que ça vient, ces armes-là, puis bien sûr, les saisir. Depuis janvier, pour vous donner une idée, là, c'est à peu près 250 armes qui ont été saisies déjà sur le territoire.
Donc, il y a des résultats. Là, il n'y a pas nécessairement de conférence de presse à chaque saisie, mais il y a des résultats.
Oui, oui, absolument. Et là, de grossir ELTA, parce que présentement, il y a 23 agents qui font partie d'ELTA, policiers, policières, et là, on vient la doubler. Alors, on a bon espoir que ça va justement doubler les résultats et plus encore. Là. C'est important parce que dans l'Est, ici, je voudrais que la population est inquiète. On vous parlait tantôt de coups de feu, là, mais on en a même entendu durant le jour dans des lieux qui n'étaient pas d'habitude propices ou ciblés. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes présentement.
Chez les plus jeunes, parce qu'on a quand même vu que dans certains cas, on a eu un exemple avec la mort d'une fille de 15 ans, là, mais que ces échanges de coups de feu, on n'est pas dans le crime organisé comme dans les films Le Parrain. Là, on semble beaucoup plus être dans des gangs de rue et qui ont des fois des armes traversées aux États-Unis, pas de numéro de série, ils savent pas vraiment tirer. Comment on attaque ce fléau-là, au-delà de la circulation des armes à feu? Est-ce que le problème des gangs de rue lui-même doit faire l'objet d'efforts accrus?
Écoutez, il y a plusieurs scénarios possibles, là, parce que le crime organisé, lui, il évolue. Donc, parmi les théories qui sont mises de l'avant par le STVM, il y a le fait que maintenant, les petites mafias, si on veut, sont plus organisées comme avant. Donc, maintenant, les gens ne suivent plus nécessairement les règles. Ils tirent quand ils veulent tirer. Il n'y a plus cette notion d'une gradation là ou d'une espèce de crescendo ou de s'en prendre aux têtes de réseau. Ils s'en prennent un peu à n'importe qui. Puis, tant pis, c'est des balles perdues. Autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'intimidations qui se font sur Internet avec des armes à feu. Ça aussi, ça semble être quand même lié à cette nouvelle réalité du confinement et de la COVID, et qui, cette espèce de d'intimidation se retrouve dans la rue. Puis il y a des jeunes qui, avant, ne faisaient absolument pas partie des réseaux de crimes organisés, qui d'un coup se retrouvent à prendre parti, puis ça se retrouve dans la rue. Là. Donc, ça change, mais bien sûr, les policiers et policières, de là l'importance d'ELTA, sont là pour justement, mieux saisir et comprendre comment s'organisent maintenant là, les crimes, mais l'utilisation des armes proscrites et illégales.
Ouais. vous avez annoncé aujourd'hui, là je reviens à la campagne électorale là, qui commence à s'activer, puis quand on va être de retour après les vacances d'été, on va être vraiment dedans, mais vous avez annoncé deux candidatures aujourd'hui. J'entends déjà vos adversaires dire, ouais, mais ces deux, on présente aux mairies d'arrondissement des conseillers qui sont déjà là, des gens un peu connus localement, mais pas des candidats vedettes. Là. Monsieur Coderre, lui, se fait une fierté de présenter des candidats vedettes. Quand on n'est pas en mal ou en incapacité de recrutement quand on fouille dans les gens qu'on a déjà, là?
Ben, écoutez, deux choses. Premièrement, moi, je pense que de se baser sur l'expérience, puis en plus de se mettre de l'avant des femmes, ça, j'en suis absolument pas gênée. Au contraire, je suis fière. Puis si je peux me permettre, à date, certains choix de M. Coderre se sont révélés quelques heures plus tard être de mauvais choix. Donc moi, ce sur quoi je mise, c'est des candidats compétents que les gens connaissent, parce que la politique municipale, c'est une politique de proximité. Et l'autre élément, ben voilà, la campagne commence à peine. Là. Alors on a du temps devant nous, puis on va décider de notre propre agenda.
Mais est-ce que vous nous promettez d'ici quelques semaines parce que quand même des figures, on dit des figures connues, puis pas juste des vedettes pour des vedettes, mais des gens qui ont un curriculum vitae, des expériences, oui, du monde économique et autres. Donc des on attend ça là.
Oui, oui, oui.
Des grosses annonces là.
Oui, puis non seulement les grosses annonces, mais également très hâte de partager les idées, parce que vous savez, notre parti en manque pas, une vision forte, des idées fortes. Alors j'ai très hâte que la campagne soit officiellement lancée.
Prenez-vous des vacances cet été ou c'est campagne à temps plein, là?
Ben, moi, je prends toujours du temps avec les enfants. Je pense que la meilleure façon de prendre soin des autres, c'est de prendre soin de soi. Mais disons que ça va être des vacances écourtées.
Je crois ça. Merci d'avoir été là.
Au revoir. Merci, au revoir.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante.
Les autres. Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
Vous écoutez
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Le commentaire de
Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
Bonjour Richard.
Salut Mario.
Alors, tu veux commenter les propos qu'a tenus aujourd'hui la ministre de la Sécurité publique, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault.
Ben oui, des fois les politiciens doivent dire des choses qui sont dures, des vérités qui sont dures et des vérités que les gens ne veulent peut-être pas entendre mais qui sont importantes. Elle a dit... malgré tous les efforts et les sommes investies par le gouvernement, il ne sera pas possible d'empêcher tous les féminicides. C'est malheureux, mais c'est ça. Et ça, c'est très important, parce que récemment, Joseph Facal, dans une de ses chroniques que tu as probablement lues, disait « on en demande trop à l'école, on veut que l'école règle tous les problèmes sociaux. L'école, c'est là pour nous apprendre à compter, écrire, géographie, histoire, bon... » Mais là, c'est le moindre problème social. On demande à l'école de régler ça. Et là, ce qu'elle dit, c'est que le gouvernement peut pas être dans chaque maison, dans chaque cuisine. S'il y a un crackpot qui a des problèmes avec ses pulsions violentes, qui a un désir de contrôle, qui est jaloux, qui a une haine des femmes et qui décide de tuer sa femme, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Ça veut pas dire de baisser les bras. Il faut continuer à financer les maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Il faut continuer à financer les réseaux d'aide d'hommes en détresse. Mais elle dit, on peut pas être partout. Puis il y a une société 100% parfaite, sans risque, ça n'existe malheureusement pas. Et elle nous ramène à notre responsabilité personnelle. C'est en tant que voisin, en tant que père, en tant que médecin, professeur, faut ouvrir les oreilles, faut être là. L'État ne pourra jamais se substituer aux citoyens, jamais. Et on a perdu peut-être un peu le sens de la communauté. Puis peut-être au Québec, et comme partout ailleurs dans les sociétés modernes, c'est « ça me regarde pas, c'est pas de mes affaires ». C'est pas moi. Mais là, elle dit, ben, tu sais, c'est à nous à s'impliquer aussi. Je trouve que c'est une vérité, mais c'est rare que les politiciens ont le gosse
de dire ça. Non, t'as tout à fait raison. Je disais la même chose. Il y a des affaires comme ça, des comportements déviants où le gouvernement peut mettre en place tout un ensemble de mécanismes, mais peut pas faire croire qu'il peut empêcher ça. Reste que dans ce cas-ci, là, les informations commencent à sortir sur l'individu. D'abord, c'est des accusations de meurtre au deuxième degré, donc non préméditées sur lui, Noureddine Mimouni. Mais il semble quand même qu'il y avait de l'historique en la matière, là, que les policiers, je sais pas trop, mais qui avaient déjà été interpellés pour des menaces à sa conjointe. Il semble qu'il y avait un passé à la matière. Et ça, c'est plus tannant. Moi, ça, ça me préoccupe davantage quand... quand quelqu'un agit sans avertissement, tu dis, ben là, mais quand il y a eu des avertissements, tu dis là, quel moyen on n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'on n'a pas pu mettre en place comme prévention? Il semble qu'il avait été averti là, de ne plus harceler. Il s'était, selon le journal, il s'était engagé à ne plus harceler la victime auprès de la police. Dans le temps des fêtes l'année passée, le service de police de la Ville de Québec l'avait arrêté. Ça, tu dis, OK, ça veut dire que là, on avait les avertissements, on était intervenu. Évidemment, la réponse à ça, c'est qu'on peut pas mettre en prison à vie.
Ben, c'est ça.
On peut pas mettre en prison à vie tous les individus qui ont fait une menace une fois, là.
Ben, c'est ça. Il y en a des fois, là, ils pètent les plombs. On les met en prison. Je sais pas, c'est à nous aussi d'enseigner à nos garçons de respecter les femmes et d'enseigner aux filles aussi, si un gars qui est pas gentil avec toi, fout le camp, lève les feux, essaie pas de le changer, il ne changera pas. Il y a trop de filles qui manquent d'estime d'elles-mêmes et qui tombent sous la coupe de gars qui les contrôlent. T'as vu là la jeune fille là, qui était pognée par un pimp, là, qui l'a exploité, qui l'a même quasiment poussé à se suicider. Là. Heureusement, c'est pas arrivé, mais bref, c'est que ce que dit, au-delà de ce cas-là, c'est comme la même affaire avec le terrorisme. Il n'y a rien qui empêcherait jamais quelqu'un de sauter dans un char puis de foncer sur du monde dans la rue. C'est plate à dire, c'est non, une réalité qui est difficile, ça, mais c'est ça.
Ouais, promettre ça politiquement, c'est pas responsable. Là. Tu promets quelque chose que tu contrôles pas du tout. Là, ouais.
Tout à fait.
Le gouvernement aime les projets qui flashent, selon toi?
Ben écoute, je reviens sur un texte de Marie-André Chouinard dans Le Devoir que j'ai bien aimé aujourd'hui, et elle disait que, tu sais, le gouvernement Legault, aime beaucoup mousser notre nationalisme et montrer que, bon, il est nationaliste, mais il arrive des fois avec des affaires, des projets, c'est des projets qui flashent, tu vois un peu les lumières, le pou pou pou, puis ça a l'air beau, puis tout ça, mais est-ce que c'est vraiment la réponse aux problèmes que nous avons, par exemple les labs-écoles ou la maison des aînés? Les espaces bleus, le panier bleu, tu sais, c'est des patentes à gosses, c'est super cool, c'est flashé, c'est wow, ça attire le regard, mais tu sais, c'est-tu un espace bleu qu'on a besoin davantage d'argent pour les musées régionaux qui existent déjà? C'est-tu une maison des aînés qu'on a besoin qui coûte très cher ou de l'argent pour les soins à domicile? C'est-tu un lab-école qui est tout shiny, qui est tout super beau, là, ils vont avoir une coupe d'école, là, wow, fantastique, tout en vitre, là, avec une architecture géniale, ou alors, c'est de Christy, tu sais, avoir des pédagogues dans les écoles, des orthopédagogues, des psys, etc. Donc, on a un gouvernement qui aime les choses flashées. Mais c'est-tu vraiment des vraies solutions à des problèmes qui existent? Et elle posait la question, je trouve que c'est une sacrée bonne question à poser à propos du gouvernement.
C'est qu'elle ne l'a jamais posé à propos des CPE. On a créé des garderies à 5 piastres. On a fait rêver le monde à un flash 5 piastres. On a implanté une bureaucratie où il y a maintenant des milliers de fonctionnaires, une grosse patente. J'ai toujours été le seul à dénoncer. On a fait tout ça en faisant rêver le monde 5 piastres, à 5 piastres, à 5 piastres, à 5 piastres. Madame Chouinard n'a jamais dénoncé ça, tu sais. Mais non, c'est vrai. Ceci dit, je dis pas que la critique est pas valable. Il y a des questions, à se poser sur des choses qui coûtent cher, puis il y a des flash marketing. Mais c'est quand c'est du côté plutôt socialiste, là, c'est bon, là. Puis ça, c'était un flash, c'était une mesure sociale. Puis
c'est
tout ça. Non, c'était un flash, le démagogue, là. Pourquoi mettre un prix fixe? Pourquoi pas mettre un prix variable? Pourquoi mettre un prix fixe? C'est de la démagogie politique poussée à son extrême, là, tu sais. L'ingénierie sociale, cinq piastres, là.
Je vivais à Outremont lorsque j'avais deux jeunes filles qui allaient dans les CPE, OK? J'étais pas à terre, je gagnais très bien ma vie. Et là, on allait mener nos filles dans un CPE, nos enfants dans un CPE, puis là, on jasait avec les parents qui étaient là. Qu'est-ce que tu fais cet été? Oh, moi, je vais en Grèce, puis toi, moi, je vais à Paris, puis j'ai mon chalet dans le Nord, etc. C'était déjà, puis ils payaient 5 piastres.
Puis le gouvernement disait qu'il faisait ça. Le gouvernement disait qu'il faisait ça pour les pauvres.
Oui, non, mais t'avais raison en maudit là-dessus. Là. Tu sais, pourquoi ils ont pas mis ça selon le salaire, des trucs
mais
comme
mon,
ça?
Mon point, c'est que le marketing politique, ça n'a pas été inventé cette année, mais que les journalistes, selon que ça fait leur affaire ou pas, traitent ça de façon assez inégale.
Mais est-ce que tu trouves qu'ils boostent un peu notre nationalisme avec des stéroïdes, là? C'est comme des muscles un peu artificiels, là.
Ben oui et non. Il faut... On manque de fierté. Moi, jamais je me reprochais un gouvernement. Puis même, tu sais, je me souviens quand, à l'époque, tu sais, moi, j'étais toujours le parti, quand j'étais en politique, qui voulait pas de grosses dépenses publiques. Mais quand Lucien Bouchard est arrivé avec la Maison symphonique, moi, il y a un point où je dis, moi, je suis fier, là. Puis je dis, oui, au Québec, on peut-tu avoir ça? On a un orchestre symphonique, puis on est une société, puis on est un peuple, des grandes nations du monde qui font ça, de la musique classique de très haut niveau. Mais on va avoir une salle pour la faire, puis on est... Tu sais, j'aime mieux mais ça,
mais donc... Ça faisait pas. Il n'y a pas des gens qui t'ont accusé d'être un petit peu snob. Je sais qu'à Québec...
Non, parce qu'autant, j'étais autant pour le Centre Vidéotron.
Quand ils voulaient avoir leur amphithéâtre, puis ils ont bien donné de l'argent pour une petite gang de péteux là, qui écoute de la musique.
Ben moi, j'étais pour le Centre Vidéotron aussi, puis on n'aurait jamais dû perdre des équipes de sport professionnel. Moi, les Expos, les Nordiques, ça aurait jamais... Une société fière, là, ça perd pas ses équipes de sport professionnel, ça s'organise avec le gouvernement et les gens d'affaires. Moi, j'ai ce côté-là, la fierté d'un peuple fier, puis je trouve ça première affaire au Québec. Par contre, j'ai pas la même fierté. Pour moi, la fierté, c'est pas un peuple syndiqué, c'est un peuple riche. Là, c'est un peuple, l'économie, ça développe, il y a des PME, puis si tu veux te partir ici, ça va bien aller. Pis...
Mais... En tout cas, à Westmount, puis à Outremont, il était bien fier d'avoir des garderies à 5$.
J'en doute pas, pantoute. Bon, est-ce qu'on était rendu avec tes sujets?
L'avocate anti-vaccin.
Est-ce que le barreau est hors norme quand il se mêle de prise de position? Je me suis posé la question.
Ben, tu sais, c'est comme, il y a des lois là, qui ont été votées dans l'état d'urgence, et quand t'es avocat, tu dois, défendre le système de justice et défendre les lois qui sont là. Mais moi, ce que je veux en venir de ça, c'est que, tu sais, moi, je viens d'un milieu très, très, très populaire. Je viens de Verdun, puis y a très peu de mes amis d'enfance qui ont eu la chance d'avoir mon parcours à moi, puis à me sortir de mon milieu, puis bon, et fréquenter des gens qui ont des maîtrises, des doctorats et tout. Mais une chose que la vie m'a appris, c'est que c'est pas les diplômes et les années d'études qui font que t'as du jugement. C'est vraiment pas ça. Tu peux avoir des juges qui sont vraiment cons comme la pluie, des médecins qui ont aucun jugement. Elle est avocate, t'sais, avocat, là, tu te dis, tabarnouche, t'as fait ton barreau, là, c'est quelque chose, là. Tu peux être un grand intellectuel et dire des sottises aussi et croire à des niaiseries. Le nombre d'intellectuels dans les années 40 et 50 en France qui ont défendu le régime soviétique et après ça qui ont défendu Mao puis tout ça, c'était des gens, des philosophes, des cerveaux totaux, des cons vraiment incroyables. Et comme quoi, ça te donne pas nécessairement, tu peux être une avocate, et peut-être qu'elle est très bonne avocate, mais écoute, as-tu lu certaines de ses prises de position?
Moi, je vais t'avouer là que je je me méfierais de prendre comme avocate une personne là, qui regarde une vidéo YouTube là, avec toutes sortes d'affaires non fondées présentées par quelqu'un qui est à mi-chemin entre un philosophe du dimanche et un humoriste, puis qui croit tout au premier niveau, croit tout ça là. Oui. Sans vérifier.
Alexis Cossette-Trudel, là, un des grands complotistes au Québec, fait une thèse sur Wittgenstein. Wittgenstein, j'ai essayé de lire ça. C'est un philosophe autrichien, je crois. J'ai essayé de lire son livre. J'ai rien compris. C'est extrêmement compliqué. Et j'ai un ami qui a lu la thèse de doctorat d'Alexis Cossette-Trudel.
Il dit
c'est extrêmement brillant. Sa thèse, elle est brillante. Mais le gars, ça ne l'empêche pas de pas avoir de jugement. Et c'est pas exactement, c'est pas la même chose. Écoute, j'ai fait jouer là un extrait que Maud Boutet, la recherchiste, m'a envoyé d'un gars qui est conférencier, etc., et qui dit que lorsque tu te fais vacciner contre la COVID, ton âme se sépare de ton corps. Ça fait séparer ton âme de ton corps, le vaccin. Je l'avais pas entendu, celle-là. Et j'ai eu mes deux doses hier, ma deuxième dose, et mon âme doit être loin de la barnouche, moi, là. Est complètement séparé de mon corps. Ben en tout cas, c'est vraiment n'importe quoi. Le gars, il est conférencier.
On l'a, l'extrait.
Il n'y a personne qui en parle au niveau scientifique parce que ce n'est pas observable de façon rationnelle, de façon objective. Mais ce qui se passe, c'est que donc, il y a une déconnexion de l'âme. L'âme est complètement perdue. Donc, elle se recroqueville sur elle-même. Et elle essaye de se rattacher au corps, mais ce n'est plus possible. Et donc, on est en train de déshumaniser, au sens propre du terme, la population qui est en train de se faire injecter avec ce produit.
Fait que t'imagines-tu, quand t'as l'âme séparée du corps, puis qu'en plus, tes fourchettes te collent dans le front, parce que t'es magnétique, tu passes une mauvaise journée.
Mais as-tu entendu ce qu'il dit? Ce n'est pas prouvable scientifiquement, mais c'est ce qui arrive. Donc, comment il réussit à le prouver? C'est pas quantifiable, parce que l'âme, là, c'est pas quantifiable, mais c'est ça qui se passe. Ça, c'est particulier. Mais bon, mais lui, il doit avoir tout son set de coutellerie dans le front.
Parce que ce qui est beau de ces vidéos YouTube, c'est que il prévoit, mettons, 1 million d'affaires là, qui se produisent jamais. Mais les gens qui les regardent oublient celles d'aveille. Dire, ouais, mais là, par exemple, là, tout ce qui avait été dit sur les vaccins, ce qui allait arriver, mais là, il y a 2,4 milliards là, de personnes. En date d'hier, il y avait 2,4 milliards de personnes vaccinées sur Terre. Fait que c'est pas arrivé, leur bébelle, mais non, mais là, on l'oublie. On en prédit une autre. On annonce une autre. L'important, c'est de continuer à divertir son public.
Exactement.
Hey, salut,
demain. Salut.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
Cube Radio.
En direct à LCN.
Le moment de retrouver dans les studios de Cube Radio à Montréal, Mario Dumont. Mario, la deuxième dose, ça s'en vient même pour tout le monde, ceux qui voudront l'avoir. Mais il y en a encore qui se font tirer l'oreille là, pour la première dose.
Bien, c'est un peu ma réaction après la conférence de presse d'aujourd'hui du gouvernement. Oui, effectivement, ben, moi j'en suis. Moi j'avais la première dose AstraZeneca. On attendait nos réponses. Puis, et je pense que là, pour ce qui est des... Bon, il reste des petits ajustements, etc. Mais on a mis beaucoup d'emphase depuis quelques jours sur la deuxième dose. Mais les gens qui sont pressés, qui veulent devancer la deuxième dose, je comprends que le gouvernement veut leur donner satisfaction. C'est très bien, j'en suis. Mais moi, là, je deviens de plus en plus préoccupé par... je suis encore sur la première dose par ces gens. Et entre autres, toute une catégorie de jeunes. Voyons les choses en face. Là. Ils vont pas la chercher, leur première dose, ne s'inscrivent pas. Il y a des inquiétudes, Pierre, même dans le milieu collégial, là. Souvenez-vous de l'annonce, on a dit si on atteint chez ce groupe, là, les 18 à 29 ans, qu'on atteint le 75 % de vaccination, ben on va pouvoir avoir des cégeps en présentiel. Ben, tout le monde a pris pour acquis. Bon, on en coche ça, c'est fait. Le cégep, ça va bien aller. Mais là, on s'en va pas là. On est à plus de 10 % d'écart, on est plus autour des 64. Et surtout que ça monte plus. Tu sais, ça monte, là, des grenailles par jour. Donc, il y a vraiment là, tout un effort. À mon avis, autant du gouvernement en termes de campagne de sensibilisation, d'éveil, mais même les grands frères, les grandes sœurs de 30 ans, si vous en avez de 22 ans, ou les parents, il y a un éveil, là, secouer les gens, c'est le temps, c'est maintenant. Et il faut avoir la deuxième dose maintenant pour avoir la première dose maintenant pour avoir la deuxième dose avant la fin de l'été. Donc, je trouve que... Il y a vraiment un effort de réveil. Là. Il y a comme... la campagne de vaccination va bien, les centres de vaccination vont bien, mais il y a un groupe où il y a comme une espèce d'apathie. Puis évidemment, c'est des gens à qui on a dit bah, « Vous avez moins de chances d'être malade », mais c'est un effort collectif. C'est un effort pour se protéger soi, mais aussi pour protéger les milieux de travail, les institutions, cégep et universités, que tout reprenne l'automne prochain le mieux possible.
On imagine déjà le défi que ce sera pour la deuxième dose, particulièrement dans ce groupe d'âge-là aussi. Ce sera quelque chose. Oui. Le français, bon, on sait que Ottawa reconnaît que le français recule partout au pays. Le projet de loi C-32, déposé aujourd'hui par la ministre Mélanie Joly. Il faut s'en réjouir, même. Ouais. Je pense que tout le monde s'en réjouit. Mais Ottawa, il y a des sceptiques quand même. Là.
Mais Pierre... C'est sûr que bon, si on demande aux gens du Bloc, ils vont dire ah, ça aurait pris plus. Puis on peut toujours regarder les choses comme ah, dans un monde idéal, ce serait ceci, ceci, cela. Or, la politique n'est pas un monde idéal. La politique, il faut voir les gestes dans un continuum, là, d'où on arrive, puis d'où on vient, puis qu'est-ce que ce geste-là aujourd'hui représente. Et si on regarde le continuum des gouvernements fédéraux, du Parti libéral du Canada, on est obligé d'apprécier là, ce que Mélanie Joly réussit à faire. Pas seul, il y a d'autres ministres québécois, francophones, qui ont mis leur poids dans la balance, mais pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, on reconnaît le français comme langue officielle. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? T'sais, dans le fond, c'est vrai qu'au Québec, depuis Robert Bourassa, 1974, on remonte à là qu'on a fait du français la langue officielle, mais c'est pas banal. Pour moi, c'est quand même un progrès. Le gouvernement fédéral, aujourd'hui, dans sa loi sur les langues officielles, l'inscrit noir sur blanc, ben oui, moi, je vois ça comme un progrès. Et on reconnaît que le français, il y a un devoir de tous et chacun de protéger davantage le français incluant du gouvernement fédéral. On n'a jamais vu ça dans le passé. Alors moi, dans le continuum là, de ce qui s'est vécu au fédéral, ben je dis, c'est un très bon pas en avant. Ce que Mélanie Joly a déposé, c'est pas parfait, mais c'est certainement une avancée. Bon, ça sera pas adopté. S'il y a élection fédérale, ça sera pas adopté, mais quand même, on l'a rédigé sous forme d'un projet de loi. Elle a fait les démarches, elle a obtenu l'appui de tous ses collègues du Canada anglais. Moi, j'applaudis.
Mais on reconnaît surtout qu'il n'y avait pas égalité entre les deux langues, c'est
aussi,
pas vrai. Là.
Aussi, ça, et d'où ça, la nécessité, ouais, d'où la nécessité d'une défense du français proactive.
Oui. Maintenant, puisqu'on parle du français et de la reconnaissance du Québec comme nation, la motion du Bloc sera débattue demain et le vote viendra demain.
Oui, surtout voter demain. On va surveiller, mais je pense qu'on va peut-être avoir là aussi des... Peut-être être surpris, parce que je m'attendais à un vote plus divisé du côté du caucus conservateur. J'ai hâte de voir, mais il semble pas impossible qu'on vote là, assez massivement pour la motion. Chez les libéraux, il semble y avoir quelques dissidents, dont un ancien d'Alliance Québec dans l'ouest de Montréal, M. Osfather. Mais ouais. ce sera à voir, mais c'est un gros test. Je prends l'exemple des conservateurs. Si Erin O'Toole réussissait à avoir tout son caucus qui vote avec le Bloc, ce serait un geste de leadership important qui pourrait lui valoir des dividendes plus tard à l'élection au Québec. Même chose pour les libéraux, même chose pour les néo-démocrates. C'est un test pour chacun des partis en ce qui concerne le Québec.
Avant de partir en campagne électorale, ouais. Bien sûr. C'est un beau test. Merci, Mario. Demain, 10h sur LCA. Au revoir.
Et Carl, donc faisons le point sur ce triste événement parce que les accusations sont tombées là, dans le meurtre d'une femme cette nuit à Québec.
Oui, Noureddine Mimouni a été officiellement accusée du meurtre au deuxième degré de Nathalie Piché, une femme de 55 ans. C'est survenu tôt ce matin dans le quartier Limoilou à Québec.
Meurtre non prémédité.
Oui.
Pour l'instant, on a déjà vu la couronne revenir plus tard après avoir plus de compléments d'enquête et découvrir des éléments de préméditation et durcir les accusations, mais pour l'instant... On est à meurtre non prémédité.
Voilà.
Là.
Deuxième degré, M. Mimouni s'était rendu à la police vers 4 heures ce matin. Le corps avait été retrouvé vers 2 heures, donc 13e féminicide. Et on rappelle, si vous avez un doute, si vous pensez qu'un proche a besoin d'aide, SOS violence conjugale, 1-800-363-9010. Évidemment, et nos sympathies à toute la famille.
Oui, vraiment. Et moi, c'est une des choses qui me dérange dans ce dossier-ci, c'est que il y avait un historique, on dit que durant le temps des fêtes, la police était intervenue, avait arrêté monsieur, il y avait eu une espèce d'ordonnance de plus s'approcher, etc., etc.
Une histoire qu'on entend malheureusement trop souvent de cas problématiques déjà signalés.
Le système... Je sais que la réponse plate, c'est « Ouais, mais là, on peut pas mettre en prison à vie tous ceux qui ont menacé une fois. » Mais
on ne peut pas garder ça comme ça non plus.
Non, puis je pense à un député français là, du sud de la France qui m'avait donné une entrevue qui avait déposé un projet de loi privé de l'Assemblée nationale française où dès qu'il y avait ordonnance là, de ne pas s'approcher, bien, on faisait quelque chose de plate pour l'homme, là, mais c'était bracelet, genre à cheville ou avec, dans la maison de la personne qui a peur, là, un détecteur. Et si le bracelet s'approche, mettons, en dedans de 3 km ou de 5 km,
ça
sonne chez la personne, ça sonne au poste de police, ça sonne partout, là. Alors là, tu fais que l'ordonnance de ne pas s'approcher devient une ordonnance vraiment exécutoire, là, tu sais, avec une vérification puis des alarmes dès que tu t'approches. Alors que nous, ce sont des... C'est de bonne foi, là. C'est des ordonnances de bonne foi qui fait que si tu t'approches, bien là... Si la personne porte plainte parce que tu t'es approché, là, la police va réintervenir, tout ça, mais c'est des mécanismes, disons, assez distendus. Là.
C'est compliqué. Et aussi, vivre dans la peur pour une femme comme ça, c'est aussi une forme de violence.
C'est l'enfer.
Ça, faut pas l'oublier.
Vivre dans la peur, c'est l'enfer. Merci, Carl. Merci à vous d'avoir été là. On se donne de nouveau rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.
Cube Radio.